Cette semaine à la vie en BD, François Donatien et les inconvénients de la félicité et des œuvres littéraires transposées en BD. Bon mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Après tout, c'est dans le titre de l'émission. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer, là, avant qu'on plonge dans le contenu de cette semaine, la programmation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est sortie il y a déjà quelques temps, évidemment avec les titres en compétition qui attirent toujours beaucoup d'attention, mais... Si vous n'aviez pas vu l'autre élément passer, eh ben je me disais que ça pourrait valoir la peine de le mentionner d'entrée de jeu là. Le Canada et le Québec seront ma foi fort à l'honneur dans le cadre de l'édition 2024. Donc lieu du 25 au 28 janvier pour le grand public avec la journée pro également du 24 janvier. Donc, il y a vraiment, dans le fond, une des grosses expositions, une belle présence pour la BD d'ici. Faut dire, en fait, que c'est tout désigné avec, évidemment, la présidence d'honneur de Julie Doucet. Alors, c'était une belle opportunité pour Angoulême, là, visiblement, de faire connaître et de mettre en valeur toute la richesse du 9e art canadien, avec un partenariat avec nos gouvernements ici, évidemment. Mais pour vous donner un peu... différentes perspectives. Là, on parle notamment d'un pavillon Canada exclusivement dédié aux éditeurs, éditrices et auteurs-autrices d'ici. Dans le pavillon du Nouveau Monde, en fait, là, vraiment, une mise en valeur des éditions alternatives et indépendantes. Sur le parvis de l'hôtel d'église de ville à Angoulême, une exposition sur la bande dessinée canadienne, un parcours là, regroupant des planches de 70 auteurs et autrices canadiennes et québécoises. D'ailleurs, une exposition qui a été commissariée par le directeur général de Québec BD, Thomas-Louis Côté. Donc, je suis bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a un food truck aussi pour le côté plus ludique. Et pour les professionnels, on parle également là, d'une mise en valeur là, de la bande dessinée canadienne également, une soirée particulière pour renforcer les liens. Et à ça s'ajoute aussi un pavillon Québec un peu à l'image de celui qu'il y avait l'an dernier. Alors vraiment, la bande dessinée d'ici aura une très, très belle place dans cet événement qui attire quand même quelques centaines de milliers de personnes, donc c'est quand même très, très gros, le Festival d'Angoulême. J'aurai le plaisir d'ailleurs d'aller y faire un petit tour, si tout va bien pour le passeport, et d'accompagner justement la délégation canadienne et québécoise. Alors, je pourrais témoigner peut-être un peu de tout ça en espérant que, à tout le moins pour le volet des expos, mais qu'il y ait quelques éléments aussi qui se retrouvent intégrés à la programmation, soit du Festival Québec BD ou d'autres événements, mais je serai très, très curieux de découvrir ça l'année prochaine et évidemment de retourner au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, on s'en reparlera l'année prochaine. Sinon, on revient dans notre temporalité actuelle, donc deux sujets pour l'émission de cette semaine. En deuxième moitié, je vais le répéter tantôt, mais je vous le mentionne, on est en mode rattrapage. En fait, je faisais du ménage de bibliothèque ces derniers temps et je suis tombé sur les deux albums, en fait, François Donatien. J'en ai jamais parlé, je n'ai jamais pris le temps de rencontrer cet auteur et j'avais envie de me rattraper et de parler avec lui, entre autres, de sa méthode de travail, de son approche scénaristique. C'est vraiment ce qui va prendre le haut du pavé dans la discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Alors, donc, Les inconvénients de la félicité, qui est le livre autour duquel on va discuter, qui lui est sorti un peu plus tôt cette année. Alors, on est en mode rattrapage à l'approche des fêtes. On avait envie de vous en parler. Et sinon, en première moitié, dans quelques instants, on aura avec nous Michel Giguère qui nous amènera vers des œuvres transposées en BD, des œuvres littéraires en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Alors, c'est le menu qu'on vous propose cette semaine ici à La Vie en BD. Et oui, en fait, on est déjà au moment où on commence à parler des derniers événements et dernières rencontres et derniers rendez-vous de l'année. Ma foi, on compte déjà tranquillement même les émissions. Je pense qu'il nous reste ensemble cette semaine et la semaine prochaine où on passera une heure en compagnie de Delaf autour de son Gaston Lagaffe. Mais d'ici là, on revient à notre temporalité. Demain, 13 décembre, mon invité va clore une autre saison de ses rendez-vous de la BD, la 38e. On approche de la 40e d'ailleurs. Donc, vous êtes évidemment conviés à y assister en ligne sur la page Facebook de la Maison de la littérature ou encore mieux, on le redit à chaque semaine, en salle avec les planches de BD projetées sur grand écran. Bref, Michel Giguère, bonsoir.
Bonsoir Raymond, et puis tu sais, tu parles donc on change d'année, que ça va être bientôt la 40e saison des rendez-vous de la BD. Après ça, on se demande pourquoi on se sent vieux.
Oui, effectivement, je pense qu'on s'est vu grisonner au fil de nos interventions BD.
Une chance que c'est juste la radio.
Oui, effectivement. Alors Michel, en fait, mercredi 13, tu nous présentes De la prose à la case, d'autres œuvres littéraires transposées en bande dessinée. Évidemment, les auditeurs réguliers de l'émission ou les spectateurs spectatrices réguliers des rendez-vous le savent, c'est pas la première fois que tu abordes ce thème-là.
Ah non, effectivement, je l'ai fait à maintes reprises. En fait, ces dernières années, il y a eu, si tu te souviens, des contes pour les grands, et là-dedans, il y avait nombre d'adaptations de contes classiques en bande dessinée. Il y a eu aussi, il y a pas si longtemps, une soirée consacrée aux 5 versions du roman 1984 qui était sorti en dedans d'un an. Et là, ben, je reviens à la charge avec les adaptations littéraires pour souligner, en fait, 10 saisons de rendez-vous de la BD à la Maison de la littérature. Encore un autre exemple comme quoi le temps passe vite. Alors, à vrai dire, là, quand on a conçu la programmation de cet automne, ça c'était le printemps dernier, eh bien, à ce moment-là, décembre 2023 était censé être ma dernière présentation à la Maison de la littérature, puisque l'ouverture de la nouvelle Gabriel Roy était prévue pour janvier ou février. Et depuis, ben, la date d'inauguration de Gabriel Roy a été repoussée au 1er mars et conséquemment, le rendez-vous de la BD de février va se tenir encore une fois à la Maison de la littérature.
En attendant de découvrir l'espace, qui promet d'être assez magnifique aussi d'ailleurs. Je pense que la Bibliothèque de Québec, là, sérieux, il y a des beaux bâtiments là-dedans à découvrir. Mais bref, j'en profite également pour mentionner que certains des titres de conférences que tu as cités sont aussi disponibles en rediffusion en ligne. A-t-on besoin de le spécifier?
Oui.
Et Michel, à travers tout ça, en fait, il se publie tellement de bandes dessinées, je pense que c'est plus de 5000 par année, là. Entre autres, tellement d'adaptations, d'ailleurs, de romans en bande dessinée. Donc, j'imagine que c'est pas trop difficile de trouver de la matière pour tes présentations.
Non, c'est vrai. Et demain, je vais proposer des titres dont j'ai pas encore parlé dans l'un ou l'autre de mes exposés sur le sujet, dont, évidemment, une grosse part de titres parus ces dernières années. J'aurais pu me limiter, en fait, à reculer 3 ans en arrière, puis ça aurait été ça, là. Je vais, entre autres, m'amuser à présenter 5 versions différentes de Gatsby le Magnifique. Puis là-dessus, il y en a 4 qui sont parus au cours des 3 dernières années. Allez, pensez, le même roman a été publié sous forme de BD 4 fois en 3 ans. C'est un peu fou.
C'est un peu fou. Et si c'est une mode, évidemment, ça dure depuis un sacré bout de temps aussi.
Ben, une mode, tu vois, je suis pas sûr. Parce que on peut se demander, est-ce que les transpositions de romans en BD obtiennent tant de succès que ça auprès du public? Je pense, pour ma part, que la profusion s'explique plutôt par la volonté désespérée des éditeurs de BD de rejoindre les littéraires, les lecteurs de romans, les gens qui vont au théâtre. Est-ce que c'est garant de donner un résultat intéressant? Est-ce que c'est une façon judicieuse de convertir à la BD les littéraires qui la boudent encore, qui entretiennent toujours des préjugés à son endroit? Je suis pas sûr, moi. Si tu fais lire à quelqu'un la version BD d'Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, dont je vais parler demain, et indépendamment de sa qualité, c'est une très bonne BD. Mais penses-tu que l'exercice va être vraiment convaincant? D'abord, ce roman-là est un chef-d'œuvre, un classique immédiat. Et la personne a de bonnes chances d'avoir lu ce roman-là au préalable. Elle va forcément comparer les deux. Si la personne aime la forme romanesque, si elle aime la prose qui explore la psyché des personnages, est-ce qu'elle va apprécier les caractéristiques de la BD, sa nature elliptique, concentrée, précisément dans une histoire qu'elle a d'abord lue en roman? Je crois que tu ferais mieux à ce moment-là de lui faire lire des BD qui sont des versions originales, et puis qui ont un caractère littéraire ou non, en tout cas tout au moins une profondeur psychologique. Tu sais, pour donner un autre exemple, si t'es un admirateur de Brassens, je vais te demander, oh, connais-tu Maxime Le Forestier? Non? Ah ben, je suis sûr que t'aimerais ça. Eh ben, j'irai pas t'initier à Le Forestier, qui est par ailleurs auteur, compositeur, interprète, en te faisant d'abord écouter son disque où il reprend plein de chansons de Brassens. Ce serait une très mauvaise idée, je pense. Alors, en fait, moi, je ferais lire La Cité oblique ou Le rapport de Brodeck à quelqu'un qui lit pas de roman, dans l'idée de l'introduire à l'univers de Lovecraft ou de lui donner le goût d'aller plus loin à la rencontre de Philippe Claudel en lisant, après coup, la version originale en roman. S'il a aimé la BD, tant mieux si, après ça, il veut poursuivre. Bref, si les transpositions de romans en BD peuvent constituer une passerelle, je pense que la passerelle va mieux fonctionner de la BD vers le roman que le sens inverse. Et ce que je dis là est pas un jugement de valeur sur la forme littéraire versus le support BD. Ce serait, à mon avis, absurde de prétendre que le roman est supérieur à la bande dessinée ou au cinéma. Il s'agit de modes de narration fort différents. Il faut les considérer en fonction de leur nature propre. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont.
Oui, puis en fait, t'amènes des points, et j'ai l'impression qu'on pourrait même partir une demi-heure juste à jaser de ça, un éditorial, mais effectivement, sur le rôle et la volonté de ces BD-là, et tu parles de passerelle, ben effectivement, on peut imaginer qu'en contexte scolaire, par exemple, enfin, on va faire lire une adaptation d'un roman pour amener le jeune qui lit de la bande dessinée à s'intéresser à d'autres médiums littéraires comme le roman. Donc, c'est le genre de choses qui peut être ouvert, mais bref...
Mais ce que t'amènes là, c'est un point sur lequel je vais passer quand même un petit peu de temps demain, parce que moi, je déteste quand j'écoute ou je lis quelque chose qui donne l'impression que le monde a été réinventé hier matin et puis qu'avant ça, il s'est rien passé. Donc, je me fais toujours un devoir de ramener des trucs pour montrer, regardez, là, ça fait un méchant bout de temps que ça se fait, que ça existe, etc. Donc, ça fait très longtemps qu'il y a des romans qui sont adaptés en BD, à commencer par Au Québec, tu sais, ou des univers romanesques qui sont transposés sans que ce soit vraiment l'adaptation d'un roman à proprement parler. Et puis, c'est seulement que ce qui s'est passé comme phénomène nouveau ces dernières décennies, c'est que ce sont vraiment des BDistes affirmés qui se sont appropriés un roman ou un auteur de roman parce qu'ils l'admirent, parce qu'ils ont beaucoup aimé tel roman et ils ont le goût d'offrir leur version personnelle dans leur médium au public.
Et là, ça revient à une démarche de création plutôt qu'une d'auteur. Démarche d'édition.
Voilà, voilà. Alors qu'auparavant, pendant des décennies, depuis très longtemps, c'était des initiatives d'éditeurs qui voulaient rejoindre les ados et avec une espèce de démarche très louable de les initier aux grands classiques des romans. Fait que là, il y a plein de versions de Robin des Bois puis de Robinson Crusoe puis de un tas de trucs. Mais non, mais ce sont des grands romans. Et puis tant mieux si un jeune a consacré une heure ou deux à lire la BD puis qu'après ça, il s'est essayé, ça lui a donné le goût de lire Moby Dick ou Ivanhoé ou Les Trois Mousquetaires. Tant mieux si c'est arrivé.
Exactement. Dans la mesure tant qu'on n'est pas dans une hiérarchisation, je pense que...
Voilà.
Mais du moment où on tombe dans la hiérarchisation des médiums, je trouve que c'est là qu'on dessert, dans le fond, l'ensemble des médiums au bout du compte en disant qu'il y a de la littérature qui est meilleure que d'autres. En termes de support, au bout du compte.
Moi, on entend, garde, toi, je suis sûr, toi aussi, on entend tellement souvent des gens sortir du cinéma en disant « Ah, oh, j'ai préféré le roman. Il allait plus loin dans la psychologie des personnages, il y avait plus de... » Mais oui.
C'est un roman.
Mais c'est justement, c'est lié à leur forme, à leur nature propre. Fait que moi, j'adore ça, je le fais dans le cadre des rendez-vous de la BD, mais quand je regarde un film et qu'au préalable, j'ai lu la BD ou j'ai lu le roman, j'adore ça les comparer. Mais pas d'une façon, pas avec des jugements de valeur, en disant, ah, c'est intéressant, dans le roman, ça, c'était deux personnages différents, ils ont fondu en un seul. Ou, ah, il y a toute une partie qu'ils ont complètement enlevé, comme dans les Watchmen, toutes les histoires de pirates dans le film, ils ont tout enlevé ça, ils ont bien fait. Ça se prêtait pas à un film de deux heures, c'était trop, tu sais, bon. Donc, il y a moyen de les comparer, mais sans dire, ah, c'était mieux le roman, ou non.
Et ça, en fait, je pense qu'on ouvre une porte et c'est le genre de discussion qu'on aura peut-être envie d'avoir avec toi, Michel, après la conférence demain. J'imagine qu'à l'intérieur de l'exposé, tu vas aborder un peu ces aspects-là, mais on va aller au-delà aussi de ces aspects-là.
Oui, ben c'est ça. C'est que je voulais pas trop m'étendre sur des aspects plus éditoriaux, mais aussi que j'ai comme des scrupules des fois à trop montrer mon opinion personnelle. Alors, mon optique va surtout être de présenter en fait des suggestions de lecture ou même des suggestions de cadeaux. C'est du genre, je vais leur dire demain, bon, ce soir, on est le 13 décembre au soir et il vous manque encore une coupe de cadeaux, eh bien, votre problème se règle à soir. Cadeau d'hôtesse pour une lectrice de roman qui est due pour s'initier à la bande dessinée. Cadeau d'échange pour le beauf qui a pas lu un seul roman depuis la fin de son secondaire 5. Bon, etc. Tu vois le genre.
Et si on va vers ta préparation, vers tes lectures, en fait, parce que je te connais, je sais que tu lis beaucoup, que tu documentes et le reste. Alors, qu'est-ce qui est ressorti peut-être de tout ça? C'est quoi les aspects significatifs qui sont venus structurer au final ton diaporama?
D'abord que la bande dessinée québécoise investit le champ de l'adaptation littéraire en BD, comme c'est le cas pour la BD autobiographique, la BD documentaire, en fait, tous les créneaux de la bande dessinée qui se développent particulièrement depuis peut-être une vingtaine d'années. Et justement, au fil des années, c'est de plus en plus facile d'inclure les bandes dessinées québécoises dans mes présentations en fonction de n'importe quelle thématique, de n'importe quelle genre, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Après ça, ces dernières années, il est sorti des adaptations de pièces de théâtre en BD. En tout cas, assez pour que j'y consacre un petit segment de ma diaporconférence. Et le théâtre adapté en BD, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. À lui seul, Paul Bordelot a brillamment transposé Pour réussir un poulet de Fabien Cloutier et aussi, plus récemment, Hippo de Nicolas-Franck Vachon. La plus ancienne transposition de pièces de théâtre que j'ai recensée là, dans ma présentation, elle remonte à 2018, donc c'est vraiment pas vieux, là. Et il se trouve que c'est Edmond. Par rapport à ça, c'est ça que je voulais parler d'Edmond, mais il y a une dame qui suit les rendez-vous de la BD en ligne depuis la Californie, qui m'a écrit sur Messenger pour me suggérer une entrevue, que je visionne une entrevue là où le dramaturge qui a écrit Edmond, la pièce de théâtre, il raconte la suite des événements. Alors, les dates, là, c'est 1897. Évidemment, ça commence par sa création de la pièce de Rostand, Cyrano de Bergerac, un succès théâtral sans précédent et insurpassé à ce jour. 2016, création de la pièce de Michalik, c'est lui le dramaturge. C'est une pièce, Edmond, qui raconte avec fantaisie, c'est pas du tout réaliste, là, mais quand même avec beaucoup de déférence aussi, comment Edmond Rostand aurait créé Cyrano en 3 semaines. C'est une comédie, c'est un succès monstre en France. 2018, 2 ans plus tard, Léonard Cheminot, moi j'avais adoré son Julio Popper, le dernier roi de Terre de Feu, mais il s'est surtout fait connaître avec la Bibliomule de Cordoue assez récemment. Donc, lui, il transpose la pièce en bande dessinée en 2018. Et dès l'année suivante, Michalik, le dramaturge qui a écrit Edmond, inspiré par la version BD qu'il a adoré, il décide de faire lui-même un film avec sa pièce de théâtre. Alors moi, j'avais d'abord vu le film que j'avais trouvé jubilatoire. Et après coup, la BD m'a aussi enchanté.
Alors, on a 2 éléments qui ressortent pour l'instant. Les auteurs québécois qui prennent leur place dans la vague de transposition littéraire. Et deuxième, les pièces de théâtre qui sont progressivement et de plus en plus adaptées en bande dessinée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a observé d'autre?
Eh bien, j'ai concocté un chouette segment sur la BD destinée aux ados ou les adolescents ou les adultes qui ont gardé un cœur jeune. Moi, je les ai lus et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et ce qui est frappant dans cette partie-là, c'est que les romans jeunesse québécois séduisent des BDistes européens et des éditeurs de BD en Europe. La vie compliquée de Léa Olivier, Bin, Les Chevaliers d'Émeraude sont adaptés en BD par des Européens pour des éditeurs européens. Ensuite, je consacre par ailleurs une partie à l'écrivain Jean Teulet, mort subitement à l'automne 2022 à l'âge de 69 ans. Je crois pas qui est un autre écrivain qui ait été aussi souvent transposé en bande dessinée. Je vais présenter 8 albums réalisés d'après un roman de Teulet. Sauf exception, ce sont des récits invraisemblables, mais véridiques, qui se sont déroulés à une époque ou une autre là, de l'histoire de la France. Des histoires, par ailleurs, d'une cruauté à glacer le sang, où les protagonistes sont généralement dénués de sens moral. Et je vais enchaîner avec Boris Vian. Je vais présenter 7 BD quand même tirées de ses romans. Et la soirée va se conclure sur des romans noirs, des récits carcéraux, un récit d'anticipation, etc. La dernière partie va être en fait sous le signe de la diversité. Entre autres, l'excellente transposition. Une transposition vraiment inspirée et assez radicale de La Servante écarlate par une dénommée Renée No, qui est canadienne, pareillement à Margaret Atwood. J'ai vu la série télé et j'ai quand même été captivé par la BD, même si je connaissais l'histoire.
Et j'imagine, en fait, pour reprendre un peu l'exemple que tu donnais, qu'il y a peut-être quelques-uns de ces titres-là, et d'autant quand on voit un peu l'appropriation, l'approche artistique dans l'adaptation, des fois les choix visuels, les choix narratifs et le reste, donc que tes commentaires, justement, vont inspirer aussi, diriger peut-être nos propres directions artistiques dans la sélection des cadeaux.
Ben je le souhaite. Et si c'est pas des cadeaux achetés, ou tout au moins que les gens les empruntent à la bibliothèque, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à sélectionner des belles planches dans le corpus que j'ai choisi. Soit j'avais l'embarras du choix, soit le choix s'imposait de lui-même tellement telle ou telle double planche était propice à être projetée sur écran. Pour ce qui est de la qualité des récits, tu sais, en fait, peu importe les genres, peu importe les catégories, il y a toujours à peu près les mêmes proportions, la même pyramide, un petit pourcentage de trucs exceptionnels, une grande part de trucs intéressants, et puis beaucoup de trucs sans intérêt. Mais ma sélection de décembre est vraiment relevée.
Et j'ai l'impression, en fait, quand on se jase comme ça à chaque mois, que quand toi, tu programmes justement tes rendez-vous de la BD, t'en arrives avec, au bout du compte, une programmation du Michel Giguère lecteur que tu es en train de faire aussi, où tu dis, bon, OK, cette saison-ci, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça.
Ben, ouais, ce qui est en amont, c'est la programmation. C'est vraiment, je fais pas la programmation en fonction de mes intérêts parce que j'essaie toujours dans les quatre soirées, les quatre présentations, les quatre activités, d'équilibrer, d'avoir une qui parle d'un genre, une autre qui est consacrée à un auteur qui soit présent ou pas, une autre qui va porter sur une mouvance, une évolution dans le marché, et enfin l'autre créneau là, c'est vraiment quand le professeur revient et sort de ce corps et là le prof prend le contrôle pour parler d'un aspect ou l'autre de la mécanique de la BD. Alors donc c'est ça, je suis pas tant mes envies que qu'est-ce qui se passe, tu sais, un moment donné, quand il sort 5 versions de 1984. Je vois ça, puis ça me fait toing. Hey, ça, c'est tellement original. J'ai jamais fait ça, là, présenter en parallèle 5 fois la même histoire avec 5 dessinateurs différents.
Oui, puis surtout dans un contexte où, dans le cas de 84, ça sortait vraiment coup sur coup sur coup. Contrairement, parce qu'on a fait l'exercice à un moment donné au club de lecture avec Moby Dick, mais sur 40 ans. Là,
de Gillon, puis même Will Eisner, jusqu'à des Chaboutés. Mais donc, c'est ça. Par contre, à partir du moment où la programmation est cannée, annoncée, là, ce sont mes lectures, là, toutes mes envies prennent le bord. Puis une chance qu'en bout de ligne, je suis content de mes lectures quand même, là, je suis content que de ce que j'ai lu, mais j'en ai pour, à part l'été et encore, là, mais j'en ai pour des mois à lire qu'est-ce qui est au programme, puis j'ai pas beaucoup de jeu j'ai pas beaucoup de liberté là-dedans.
Exact. Donc, tu définis ça à la programmation, puis après ça, ben, le Michel Giguère programmateur a imposé.
Voilà.
Le Michel Giguère lecteur, un programme assez serré.
Je m'encarcane moi-même.
Et si, évidemment, on veut reproduire ta démarche à notre échelle, cela étant dit, j'en profite pour mentionner que tu te fais toujours un devoir de choisir des titres qui sont disponibles dans le réseau des bibliothèques de Québec. Donc, dans l'une ou l'autre des 26. Alors, si jamais on veut aussi, et tes bibliographies, d'ailleurs, sont toujours publiées et disponibles.
Au
après,
lendemain. Ouais, pas lendemain. À l'avance, mais au lendemain. De la présentation, là, c'est le fun parce qu'on peut se la télécharger ou se l'imprimer.
Oui, puis savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait un choix éditorial dans la thématique. Si, par exemple, moi, je m'intéresse aux adaptations de romans ou de livres, d'œuvres littéraires en BD, mais je le sais que ceux que tu vas présenter demain, c'est ceux que tu as choisi dans un ensemble de lectures qui est peut-être plus large que ce que tu présentes aussi.
Plus que ça, même en intro, je reviens, je fais juste, j'en parle même pas, je fais juste les montrer en disant aux gens, ça, là, à vie, c'est les quatre meilleures adaptations de romans que j'ai jamais lues. Mais je vous l'ai dit pas à la radio pour que vous veniez ou que vous l'écoutiez en ligne demain.
Et Dieu sait que t'en as lu. Alors,
un peu, ouais.
Oui. Alors, je rappelle, tout ça se passe demain et mercredi, donc à compter de 19h le 13 décembre à la Maison de la littérature dans le Vieux-Québec. Dernier rendez-vous de la BD de la saison automne 2023 sous le titre de La prose à la case, de nouvelles transpositions d'œuvres littéraires en BD.
Et en ligne, ça s'écoute à partir de la page Facebook de la Maison de la littérature.
Et si jamais vous attrapez l'émission après le 13 par la magie de la balado, ben, ils sont disponibles en rediffusion. Alors, vous pouvez aussi les écouter. Ça reste d'actualité désormais, nos rencontres. C'est merveilleux.
Oui.
Alors, en février, tu reviens pour lancer la saison printemps-hiver avec quoi?
Excusez. J'ai un petit restant de vieille COVID. C'était supposé être à la bibliothèque Gabriel Roy. Finalement, ça va être à la Maison de la littérature. Et c'est un thème, en fait, c'est une promesse que j'avais faite. Parce que j'ai dû faire des coupures cruelles dans les derniers mois, là, durant la saison actuelle. Il y a dans ma préparation, je comptais parler de telle ou telle BD, genre Le fond du trou de Jean-Paul Hyde. Et puis, en bout de ligne, je devais couper. Et donc, j'ai identifié vraiment toute une section, tu sais, comme une catégorie de BD que je disais, ça, je peux tout retrancher ça, ça va me libérer 15-20 minutes, bon, c'est ça, j'ai besoin, et je pourrai en reparler plus tard. Donc, ça y est, ça va être en février pour le prochain rendez-vous de la BD, Pirouette et contrainte, jouer avec les codes du médium.
Alors, demain et en février, alors on se dit à demain et à l'année prochaine, oui. Michel Giguère.
Merci, Raymond.
Alors, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD. Alors, toujours à l'écoute de La vie en BD, peut-être deux petits clins d'œil avant qu'on passe à l'entrevue avec François Donatien. Alors, dans un premier temps, au terme d'un ultime tour de scrutin, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée a eu le plaisir, un peu plus tôt cette saison, de décerner son grand prix de la critique à CBD au ciel dans la tête d'Antonio Altariba, Sergio Garcia Sanchez et Lola Moral, publié par les éditions de Noël Graphique. Alors, ben, félicitations évidemment à l'auteur pour ce titre. Alors, on parle ici, dans le fond, d'un récit qui raconte le sauvetage du jeune Nivek, enfant esclave enseveli sous une mine congolaise. Donc, sauvetage qui s'apparente pour lui à une seconde naissance. Il renaît dans un monde atroce et s'embarque dans un parcours initiatique écœurant et éclairant sur l'ignominie humaine. Alors, déjà primé pour moi Assassin, le scénariste espagnol Antonio Altariba brosse une nouvelle fois un portrait sans concession de l'âme noire de l'humanité. Le chaos de notre monde est donc à la fois tempéré et exagéré par l'astucieuse plasticité du dessin de Sergio Garcia Sanchez, qui se joue des perspectives et des proportions au travers d'une mise en scène particulièrement inventive. Alors ça, c'est pour Le ciel dans la tête. Et au clin d'œil du côté ACBD, il y a eu également le prix jeunesse ACBD de la critique qui a été remis à Mademoiselle Sophie, ou la fable du lion et de l'hippopotame de Vincent Zabu et Hippolyte. C'est du côté de Dargo. Alors c'est l'histoire de Romain, 11 ans, qui découvre à la rentrée scolaire que son institutrice préférée a pris du poids. Il décide donc de mener l'enquête. Des liens forts et solides vont se tisser entre ces deux personnages touchants et fragiles. Un récit délicat et poétique porté par un merveilleux dessin à l'aquarelle qui a su visiblement conquérir les quelques 96 membres de l'association. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil. Et ben Raymond Poirier toujours avec vous à La vie en BD. Vous êtes toujours à La vie en BD, Raymond Poirier avec vous. Et on est un peu en mode rattrapage actuellement. Enfin, une bande dessinée qui est arrivée dans la frénésie des sorties printanières, des sorties de la fin de l'hiver. Et à un moment donné, on se retrouve à classer la bibliothèque et on se dit, mon Dieu, j'ai pas parlé de cet album-là. Et ensuite, ben, pourquoi j'en ai pas parlé? Déjà que j'avais échappé le précédent album de l'auteur aussi. Alors, je suis comme un peu doublement en mode rattrapage. Alors, il nous avait offert Minimax il y a quelques années en réédition, donc après une publication indépendante. Il nous est revenu donc plus tôt cette année avec Les inconvénients de la félicité. C'est chez Nouvelle Adresse. C'est de François Donatien qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, deux albums qui sont ancrés d'ailleurs dans un peu le même univers. Dans le fond, c'est d'un même univers, un même groupe social, mais j'aurais envie de dire peut-être deux études de personnages, parce que dans le fond, entre Minimax et Les inconvénients de la félicité, on a deux personnalités qui sont quand même assez distinctes et différentes, qui sont au cœur du récit et qui nécessairement vont amener un récit qui va être une exploration qui va être assez distincte aussi, là.
Oui, tout à fait. C'est ça. En fait, ce projet-là, Les inconvénients de la félicité, c'est comment je travaille, c'est de façon un peu intuitive. J'avais créé une galerie de personnages pour qui entourait Minimax dans le premier livre, son groupe d'amis. Puis, En cours de rédaction, ben, j'ai réalisé que je trouvais que le personnage d'Audrey avait comme un potentiel narratif. C'est un personnage qui est comme un peu un négatif de Minimax, autant physiquement que dans ses valeurs et tout, mais que c'est comme deux amis qui sont complètement opposés, mais qui sont quand même assez complices. Puis je m'étais dit, ah, yeah, ça serait cool de faire un livre sur ce personnage-là. Puis j'ai pris des notes en parallèle avec la rédaction de Minimax, qu'est-ce qui pourrait arriver à Audrey. Puis quelques années plus tard, ben, c'est ça, j'ai fait cet album-là. Ouais, en gros, c'est ça. Mais ce qui s'est présenté aussi, c'est que c'est une trilogie, parce qu'il y a un autre personnage de Minimax qu'on retrouve aussi dans Les Inconvénients de Félicité, qui est le personnage du troisième livre sur lequel je travaille présentement. Donc, c'est comme un groupe, une espèce de Polaroid, d'un univers social, d'un moment, qui est le Montréal contemporain, puis de voir l'évolution de trois personnes différentes dans ce monde-là. Donc, voilà.
Et puis j'imagine qu'il y a un plaisir à partir justement à dire OK, on part d'un personnage, dans ce cas-ci, c'est Audrey pour Les Inconvénients de la Félicité. Et la construction se fait, j'imagine, à partir de ce qu'elle est, où on essaie de la comprendre, de la définir à peu près ça. Tu te questionnes un peu qu'est-ce que tu veux y faire vivre ou simplement de la placer dans différentes situations. Mais, donc,
Ouais.
j'imagine que ça passe d'abord par la construction de ce personnage-là.
Ouais, c'est ça exactement. C'est le personnage, je vais lui donner des caractéristiques psychologiques. Tu sais, ben, il y a beaucoup de moi là, dans tous ces personnages-là, c'est sûr, là, mais en même temps, il y a comme une grosse part de fiction aussi. Puis c'est de la plongée dans des anecdotes. Puis je travaille de façon. Je suis pas capable d'écrire un scénario. Je vais plus créer comme développer un personnage, puis dire, aïe, aïe, si ce personnage-là. Il se retrouvait avec des dettes, comment qu'il réagirait, donc, des trucs comme ça. Donc, puis les premiers chapitres demandent peut-être un plus gros travail de scénarisation, puis par la suite, ça coule de source. C'est vraiment curieux. C'est comme si c'est le personnage lui-même qui dirigeait l'histoire. Donc, ça devient pratiquement plus un travail intellectuel. Je suis mon personnage, puis une fois que j'ai saisi sa psychologie. Ben, s'il arrive telle chose, ben, elle va agir de même. Si j'aurais fait la même situation avec le personnage du livre précédent, Minimax, ça aurait donné complètement une autre histoire. Puis c'est le fun parce que au niveau de la scénarisation, c'est super facile. Ce qui est difficile, c'est le dessin. Mais pour la scénarisation, c'est le personnage qui dirige le truc. C'est une fois que je l'ai saisi, c'est ça, c'est super le fun.
Et nécessairement, ça veut dire qu'il faut aller chercher un personnage qui va avoir une nature à inspirer, justement, à mener, à diriger un récit, à créer ces situations-là, à les générer par sa présence. Dans le cas, donc, de l'album dont on parle, c'est le personnage d'Audrey, qui évolue de façon presque anachronique, j'ai envie de dire, dans son groupe, est un peu décalée, amoureuse de l'Antiquité, de la poésie, d'une pratique artistique, de l'idée d'une pratique artistique, des fois plus que de la pratique elle-même. Donc, est un peu incomprise dans son groupe, mais finalement aussi, on se rend compte qu'elle manque peut-être un peu de sincérité dans sa pratique aussi, où elle est beaucoup dans le paraître plutôt que dans l'être. Donc, tranquillement, on comprend aussi la nature de ce personnage-là, et nécessairement, bien, ça va influencer, comme on disait, dans le fond, la construction du reste. Donc, qu'est-ce qui t'a intéressé peut-être un peu dans ce type de personnage-là? Je décris grossièrement, là. N'hésite pas à compléter aussi. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce type d'élément-là? Et tu disais, il y a peut-être un peu de toi, donc on va chercher le nous un peu adolescent qui se croit un peu trop.
Ouais, c'est ça. Ouais, ben en fait, quand j'ai fait Minimax, je trouvais que c'était un personnage qui m'intriguait, comme qui je me dis, c'est ça, c'est un peu quand j'étais adolescent, j'étais quelqu'un de très très fantasque, très poète, maudit, tout, tu sais, qui posait beaucoup en artiste là. C'était comme puis j'avais des repères. En fait, c'est ça, c'est que mes livres parlent. Je réalise. Parce que je travaille de façon pas vraiment réfléchie, mais quand je relis ou quand je repense à ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé, c'est beaucoup des livres sur des gens qui cherchent leur place un peu. Puis Audrey, ben, j'ai poussé cette idée-là, mais pas de façon consciente, là, mais de faire un personnage, justement, comme tu le disais, qui est complètement anachronique, mais qui ressemble beaucoup à, mais d'une façon caricaturale, aux caricatures pour rendre ça plus intéressant, plus dynamique. Mais qui ressemble à mon moi adolescent, là, qui était comme quelqu'un, tu sais, j'étais entouré, j'étais dans un cégep de banlieue, puis T'sais, moi, ce que je trippais sur le cinéma de la nouvelle vague, j'aimais les trucs classiques, c'est un peu obtus comme du Sean Berg, des choses comme ça. Mais j'avais pas beaucoup d'amis, disons, avec qui je pouvais parler de ça. J'avais des amis, mais on parlait d'autre chose. Puis l'idée, c'est ça, c'est de créer un personnage qui est dans un. Qui a sa clique, mais qui est comme un peu un extraterrestre à travers tout ça, puis qui a de la difficulté à trouver sa place dans la société. Puis ouais, c'est. Puis. Je trouvais ça intéressant. Puis l'autre défi, c'était de faire un personnage qui, au premier abord, est pas très sympathique. T'sais, hautaine, ça est vraiment dans le paraître, comme tu dis, ça, c'est assez superficiel son rapport à la création. Elle aime l'idée de créer, elle est maladroite, puis mais en même temps, elle a comme une assurance, une espèce d'assurance un peu excessive, je sais pas. En tout cas, parce qu'elle est pas beaucoup dans
Enfin,
l'auto-introspection.
comme si elle avait une assurance, mais qu'elle méritait pas.
Ouais. Puis le défi, c'était qu'on s'attache quand même à ce personnage-là. Donc, ça, c'était peut-être le défi plus littéraire de ce livre-là. C'était de prendre un personnage qui, au premier abord, est antipathique. Les gens disaient est insupportable, mais qu'on s'attache quand même à son destin, puis qu'on lise le livre au complet, le livre ne tombe pas des mains en disant ah, pourquoi je lis un livre sur quelqu'un de vaniteux puis d'insupportable comme ça. Puis c'est ça, l'idée, c'était que les gens s'attachent quand même à son destin, soient curieux de voir vers où elle s'en va, puis finissent par s'attacher à elle presque de façon involontaire. Je sais pas où,
Oui,
pas
puis
être.
ça, François Donatien, en fait, tu utilisais d'entrée de jeu, si on est un peu dans des moments, dans des anecdotes, au bout du compte, donc c'est en la plaçant dans différentes épreuves, mais veut pas, le personnage tel qu'il est au départ, avec cette vanité-là, puis quelque chose qui la rend pas nécessairement empathique, mais à l'épreuve des événements, à l'épreuve des situations dans lesquelles tu vas la placer, bien, tranquillement, le vernis en vient à tomber aussi. Et tranquillement, ben, dans le fond, les événements te forcent aussi à développer, à pousser ce personnage-là. Et nécessairement, ben, dans l'épreuve ou dans l'adversité, ben, à un moment donné, il y a des couches de vérité qui finissent à sortir. Et plus on accumule l'épreuve, ben, plus on se rapproche, dans le fond, pour ce personnage-là, d'une certaine vérité, comme si il y avait le besoin du test de la réalité. Mais à un moment donné, ça en devient, je veux dire, on se devient empathique pour elle aussi, puis pauvre petite, dans le fond, on finit par comprendre qu'est-ce qu'elle cherche aussi. Donc, tranquillement, c'est dans ta construction des anecdotes, anecdote sur anecdote sur anecdote, qu'on en arrive à changer, dans le fond, notre perception puis notre regard sur ce personnage-là.
Ouais, ben merci, merci, c'est une belle lecture. Ouais, ben c'est ça, je sais pas si c'est conscient quand j'ai construit le livre parce que je fonctionne beaucoup par anecdote, mais en bout de ligne, quand je restructure, je me retrouve avec un tas d'anecdotes que je vois pas toujours dessiner dans l'ordre, puis à la fin, ben je vais les mettre dans un ordre, boucher les trous pour que ça donne, en fait c'était ça, c'était comme que ce personnage-là, son enveloppe craque, puis finalement, elle se retrouve confrontée à la réalité, puis que ce soit l'endettement, qu'elle doit retourner vivre chez ses parents et tout, puis qui brise un peu l'espèce de coquille de hors du monde que s'était créé, puis mais c'est-à-dire puis l'empathie vient, je pense qu'il y a une empathie qui peut sortir de ce destin-là parce que ça ressemble quand même à ce que c'est sûr, c'est encore une fois c'est caricaturé, je veux faire un livre qui est drôle, qui est pas non plus complètement déprimant. Mais ça ressemble quand même à certaines réalités que pas mal tous les artistes là, on est confrontés là, tu sais, ne serait-ce que de vivre quand on fait de la bande dessinée, ça demande énormément de temps, faut travailler, on a des familles, tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est facile de se laisser submerger par le quotidien. Fait que ça parle un peu de ça, mais à travers une caricature, c'est ça, c'est ça.
Et la méthode de travail, dans le fond, tu disais, OK, on a des anecdotes. Est-ce que justement, tu pars, donc, tu construis ton personnage. Après ça, OK, on se dit, ben, voici un ensemble de situations dans laquelle j'aimerais le mettre. Après ça, on ordonne un peu les situations, puis on passe au dessin. Ou c'est quoi un peu la méthode de.
Ouais, non, en fait, je dessine comme rapidement. J'ai vraiment de la difficulté à faire un scénario qui serait tout écrit. J'ai jamais fait ça. Je suis vraiment plus dans le. Tu sais, comme mon premier livre, à l'origine, c'était des notes de blog, Minimax. Je faisais juste comme des petites bandes dessinées dans le désordre. J'avais pas de plan narratif. Je parlais du quotidien d'une étudiante en maîtrise qui chantait dans un band punk. Puis je faisais une histoire, je la mettais sur mon blog. Éventuellement, je me suis retrouvé que 15-20 histoires, puis j'ai senti qu'il y avait comme un récit là-dedans, c'était pas juste des anecdotes. Le personnage avait comme évolué, puis après, c'est ça, j'ai décidé de faire un volume avec ça, Puis à l'époque, j'étais à la maison de la bande dessinée, là, puis Vincent Girard qui m'avait aidé à mettre de l'ordre puis à faire un bel album là, auto-édité avec toutes ces anecdotes-là. J'avais bouché les trous. Donc, Audrey, c'est peut-être fait de façon un peu plus chronologique. J'avais plus l'intention de raconter une vraie histoire, on dirait. Audrey, j'appelle aussi Audrey, mais c'est les inconvénients de la félicité. C'était quelque chose qui était que je voyais d'une façon plus chronologique, mais je l'ai pas dessiné dans l'ordre. J'ai pas vraiment fait de scénario. J'ai commencé, j'avais comme une situation initiale, c'était Audrey qui est à l'hôpital, puis que son oncle riche décède, puis il va lui donner, léguer un héritage. À partir de là, l'idée, c'était qu'elle allait s'endetter, puis qu'elle allait essayer de vivre son rêve d'artiste du 18e siècle, mais en 2020, 2019, 2020. Donc, ça, c'était mes deux lignes directrices. Fait que là, j'ai comme dessiné, je dirais, c'est même parce que je fais tout de suite comme un découpage visuel. Je suis pas capable de juste aller sur ma dactylo là, puis écrire un scénario suivi. Je vais écrire un roman. J'ai vraiment besoin du support de faire mon découpage tout de suite. Donc, je fais comme un découpage très rudimentaire avec les bulles. Ben, souvent, c'est ironiquement, j'ai besoin du dessin, mais c'est le texte qui dirige mon récit. J'aimerais ça faire une BD sans texte, voir si j'arrive vraiment à m'en sortir, mais là, j'ai vraiment besoin des dialogues. En fait, c'est beaucoup les dialogues qui sont le. Je vais avoir une idée de dialogue, puis à partir de cette idée, de ce dialogue-là, je vais faire tout de suite un découpage d'une anecdote, donc un chapitre. On va appeler ça un chapitre. Puis à la fin, je vais dire, bon, où je mets ce chapitre-là dans mon récit, où ça se placerait dans le récit d'Audrey. Ce livre-là, par contre, vu qu'il y avait comme quatre ou cinq parties assez définies, ben, les anecdotes étaient, que j'ai fait étaient dans le désordre, mais à travers chacune des parties du livre. Tu sais, j'ai peut-être scénarisé dans ma tête vaguement la fin du livre, mais j'ai fait comme la première partie, ben, j'ai fait comme plein d'anecdotes dans le désordre. Après, j'ai fait un mélange, qu'est-ce que je garde là-dedans? Ça a été la première partie. Après, j'ai travaillé sur la deuxième partie. Donc, je m'en vais vers un travail qui est comme un peu plus classique, mais je suis quand même quelqu'un d'assez désordonné, là, dans ma création.
Oui, mais je trouve ça intéressant, l'idée de justement fonctionner par chapitre où tu te brimes pas, dans le fond, dans l'approche de construction. On dit, OK, on crée des anecdotes, des situations, on voit qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas au bout du compte, puis on s'approprie le personnage à une étape X. Mais nécessairement, l'accumulation de ces anecdotes-là va faire que dans la deuxième portion, ce ne sera plus exactement le même personnage. Donc, OK,
Exactement,
là, on a une deuxième banque où on exploite le personnage avec cet état d'esprit-là. Et là, tranquillement, dans le fond, ça permet au personnage d'évoluer. Mais en te permettant quand même d'avoir une part d'instinct un peu là-dedans, puis de construction plus spontanée avec un personnage à différentes étapes de sa vie, on pourrait dire comme ça.
ouais, c'est ça. Puis moi, ce que ça me permet aussi, c'est, je sais pas, moi j'ai du cinéma, j'ai étudié en cinéma, puis on étudiait comment écrire un scénario, des choses comme ça. Puis, je trouve qu'il y a comme une espèce de formule qui fait que moi je suis plus très fan de cinéma, enfin de cinéma classique, parce qu'il y a quelque chose de très très peu de surprise dans la façon on apprend aux gens comment structurer une histoire un peu selon des canons narratifs qui sont toujours les mêmes, ce qui fait que c'est comme qu'un film qui dure 3 heures, qui dure 20 minutes, ben, c'est à peu près toujours la même structure narrative. Moi, ça me déprime. J'aime ça être surpris. Puis, je trouve que c'est une façon de travailler qui permet justement une espèce de liberté, puis qui se rapproche plus de la vie. La vie, elle n'est pas structurée. La vie, oui, on a des grandes lignes narratives dans notre existence, mais il y a plein de surprises, il y a plein d'affaires qui nous tombent dessus. On s'adapte ça, puis j'essaie. Moi, quand je fais de la bande dessinée, j'ai plus envie de parler de ça que de raconter comme je sais pas, une saga épique. J'ai juste envie de faire quelque chose qui est très quotidien, mais qui est quand même structuré, mais qui laisse comme une marge à l'improvisation. C'est plus fun comme créateur de travailler comme ça parce que je me surprends moi-même à aller vers des avenues que j'aurais absolument aucune idée d'aller au début. Puis je pense que c'est plus intéressant pour les lecteurs qui aiment ce genre de choses-là. Il y a des gens qui aiment les structures rassurantes, puis. Tu sais, moi, j'ai rien contre ça. Moi, ça me parle moins, mais je sais qu'il existe des gens qui aiment ça être surpris, puis ça, puis qui vont me dire, aïe, il se passe tellement. Tu sais, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, des amis ont lu Les Inconvénients de la félicité, puis ont dit, il se passe tellement de choses dans ce livre-là. Il y a tellement, le personnage passe tellement d'anecdotes, puis il dit, on sait pas vraiment combien d'années ça se passe. Puis ça, c'est le genre de choses que j'aime. Je trouve que ça se rapproche du quotidien où tu vas vivre une année qui se passe rien. Après, il va t'arriver une année, puis tu vas avoir comme 1 million d'affaires qui vont t'arriver, qui vont te tomber dessus, tu vas t'adapter, ça va être fascinant, puis ça va être positif, négatif, ça. J'essaie de plus en plus, de façon de plus en plus consciente, puis j'ai l'impression que j'ai toujours essayé de faire ça dans mes livres, mais sans m'en rendre compte, parce que vu que c'est ça, c'est un processus plus intuitif, mais je pense que c'est ça que j'aime de la bande dessinée, c'est de pouvoir raconter un quotidien qui est semi-structuré, puis de me laisser aller à raconter des destins de personnages en faisant confiance en mes personnages, puis en les lançant dans la réalité, puis
Oui, puis en se laissant la liberté de toute façon de voir, de sélectionner après pour qu'il y ait une
ouais,
structure. Mais
c'est
en
ça.
même temps, puis c'est ça qui devient intéressant pour le lecteur, pour moi, c'est que c'est la structure n'est pas dans ta face non plus. Je veux dire, c'est une suite d'anecdotes, comme tu dis, sur un temps donné. On suit ce personnage-là et à un moment donné, tu sais, je veux dire, tu en viens à connaître le personnage, un peu comme si tu étais dans le groupe d'amis ou un peu comme si tu étais dans son quotidien comme observateur. Et là, tranquillement, ben, tu te forges une opinion sur ce qui est en train de se faire. Tranquillement, tu ressens de l'empathie sur ce qui est en train de vivre. Et tranquillement, ben, là, tu te demandes où ça va s'en aller jusqu'à temps qu'on dise, ben, OK, voilà, tu sais, le moment charnière, il est complété. L'histoire se continue après comme elle se continuait avant. Mais ce moment-là a été important pour elle. Ça a été son année occupée. Ben voilà, puis après ça, on la laisse poursuivre de façon indépendante, dans le fond.
Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est comme une tranche de vie, là. C'est quelque chose qui est comme je raconte pendant un moment l'existence de ce personnage-là. Puis tu sais, puis j'essaie de pas définir les choses. C'est comme en tant que raconteur, j'ai pas envie d'orienter le point de vue des lecteurs sur le personnage. J'ai pas envie de l'expliquer non plus. C'est-à-dire que les gens réalise certaines choses au fil de la lecture. Puis ça, je pense que c'est important aussi, c'est de faire confiance en l'intelligence du lecteur, puis pas sentir le besoin de tout expliquer. C'est un peu comme... Mais c'est ça.
J'imagine qu'à un point
Ouais.
donné, par contre, si tu dis, OK, on y va avec l'improvisation, mais rendu à un certain point dans le développement du récit, dans l'exploration du personnage, sachant qu'à un moment donné, ça va finir, ben, ça finit aussi par être plus dirigé. Je veux dire,
Ouais, ouais,
les
ouais, ouais,
derniers
ouais.
segments tendent clairement vers la conclusion
Ouais, c'est ça, c'est
qui est pas
ça.
sur, qui arrive pas en surprise à la fin,
Ouh.
qui est orientée. Donc, comment
Ouais.
on sert des peut-être trois premiers passages, des anecdotes pour tranquillement faire descendre le
Ouais.
récit vers l'endroit où on va choisir de terminer tout ça?
Ouais. Puis la façon de travailler aussi, comme tu dis, c'est ça, c'est se crée un genre d'entonnoir, puis on s'en va vers... Puis ce qui fait, par contre, que c'est très bouffetant comme façon de scénariser, parce que il y a plein de chapitres qui vont tomber au montage, parce que je vais réaliser en relisant l'ensemble... Aïe, OK, ça n'a pas sa place dans la dernière partie, c'est pas nécessaire, ou ça redit des choses, ou ça brise le rythme. Donc, il y a des chapitres comme que j'ai fait pour rien. C'est ça. Tandis que quelqu'un qui va scénariser de manière plus classique, ben, il va s'éviter ce travail-là. Ce qui fait que ça m'a pris 6 ans à faire ce travail-là, mais pas parce que j'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Le prochain, j'ai pris vraiment 2 ans, j'ai fait l'équivalent de 4 ans de travail de mon ancien projet, parce que là, j'ai plus de temps consacré à bande dessinée. Mais c'est ça, c'est vraiment trop long là, pour un livre.
Oui, j'imagine que
C'est
c'est
une
un peu
façon de
adapté
travailler.
aussi. Oui, puis c'est une façon de travailler qui vient des contraintes temporelles aussi. Je veux dire, j'imagine que
Ouais,
c'est
ouais,
plus,
ouais.
plus facile de travailler en anecdote, puis d'avoir une satisfaction de dire, OK, j'ai 4 pages, sont faites,
Ouais,
sont
ouais, ouais.
livrées,
Ouais.
que de dire, OK, là, j'ai scénarisé, ça fait un an et demi que je scénarise là, pendant 2 ans. C'est
Ouais,
ça.
ouais. Ben, c'est une adaptation, c'est ça. Moi, quand j'ai fait ce livre-là, je travaillais à temps plein, donc je fais juste consacrer quelques heures le soir à, ben, quelques heures, quelques minutes même parfois, à travailler sur l'album les soirs que je pouvais. Donc, c'était plus gratifiant aussi de travailler par petits chapitres. Puis c'est ça, c'est gratifiant comme créateur, ça avance plus vite. Au moins, on a des petits chapitres qu'on est content d'avoir terminés. Ouais.
Et puis, en fait, j'avais vu dans certains, je pense, des entrevues ou des critiques, mais j'avais trouvé intéressant aussi de dire, parce qu'on la question de structure revient quand même souvent d'une section à l'autre par rapport aux inconvénients. Il y avait quelqu'un qui faisait le comparatif avec le conte philosophique du 18e siècle, pardon. Donc, en termes de structure ou en termes de cadre.
Ben, ça, je voulais faire aussi une espèce de conte moral. Ça, c'était, ben, c'est une autre affaire qui s'est présentée, là, tu sais. Je suis un fan, on dit, du cinéma d'Éric Rohmer, tu sais, souvent qui partait d'une citation qui venait d'un conte philosophique du 18e siècle, puis qu'on se faisait une histoire comme contemporaine à partir de cette phrase-là. Moi, c'est ça, j'essayais de faire. C'est ça, c'est un peu un pastiche de genre de conte moral, tu sais. Ah, regardez cette fille qui s'est endettée et tout. Faut trouver sa place. Puis, mais tu sais, je suis absolument pas un spécialiste là, de ce genre de littérature-là. Je l'ai juste lu un peu. Mais j'aimais l'idée comme ça parce que en plus, elle allait avec le personnage. Donc, tu sais, puis c'est là que je voulais, comme au début, ça devait s'appeler Audrey. Tu sais, puis l'autre s'appelait Minimax, mon éditeur, il trouvait qu'Audrey. Minimax, c'est cool, c'est un nom, tu sais, qui frappe un peu l'œil. Audrey, c'est un prénom plus quotidien. Trouve autre chose. Puis là, comme les inconvénients de la félicité, pour moi, ça sonnait tellement comme ce genre de conte du 18e siècle, tu sais. Fait que, par contre, c'était pas un bon choix commercial, parce que ça peut être rebutant pour certains gens, ils voient ça, c'est ça. Mais moi, je trouve que ça allait super
Oui,
bien avec
ben
le
c'est que ça
personnage.
fit avec ton personnage, c'est ça un peu. C'est comme où la structure du roman, du récit, dans le fond, rencontre l'esprit du personnage principal et où la forme rencontre le fond, d'une certaine façon, parce que le titre, la structure du récit, il y a des éléments de référence qui nous préparent au personnage. Puis après ça, dans le fond, le personnage est cohérent par rapport au format dans lequel il évolue au final
C'est
aussi.
ça. Ça, c'était, je trouve que c'est intéressant, justement, qu'il y ait plus que dans mon livre Minimax, j'ai l'impression que celui-là, c'est ça, la forme puis le contenu, sont plus comme cohérents. C'est ça. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Mais encore ça, c'est toutes des choses qui se développent on dirait que au début, je fais juste me lancer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que beaucoup de gens sont très, très ambitieux quand ils font de la bande dessinée. Alors que moi, je pense que je cultive le contraire. C'est de pas être ambitieux du tout. Comme ça, tu es certain que tu vas terminer tes projets. Puis, tu sais, comme plein de gens vont avoir comme l'ambition de faire comme des sagas, 12 volumes, tout ça. Présentement, je donne des ateliers de dessin à des adolescents. Puis, c'est ça, moi, j'essaie comme gentiment de dire... Non, non, fais pas. Essaie pas d'ambitionner de faire un Naruto, là, ou je sais pas, tu sais, ils sont beaucoup dans les mangas, puis faire quelque chose que c'est une saga. Non, commence par faire un strip de trois cases, that's it. Parce que souvent, si le projet est trop ambitieux, c'est extrêmement intimidant. Puis moi, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'avais pas de temps, je me dis, bah, je vais faire des petites anecdotes. Puis c'est plus facile, c'est plus réaliste, pour moi, en tout cas. C'est sûrement, regarde, il y a des gens, Moebius, qui a fait l'Incal avec Jodorowsky, puis ça a duré des années, tout ça, puis c'était plein de volumes, c'est super bien dessiné, super bien scénarisé. Mais moi, ça m'intimide trop. Donc, c'est ça, c'est de commencer avec le moins d'ambition possible, puis au fil de la création, mais le truc, il se développe. C'est là que j'ai réalisé tout ce qu'on se parle. Au début, c'était juste, je veux faire un livre sur Audrey, l'ami de Minimax, est endettée, puis elle veut vivre le destin d'une poétesse du 18e siècle. Ça, c'était juste ça. Je vais faire des anecdotes là-dessus. Puis, ça s'est comme transformé en quelque chose qui a l'air plus ambitieux, mais
L'ambition est venue à force de
Ouais,
travail, au bout du
c'est
compte.
ça. Mais c'est beaucoup moins difficile dans ce cas-là parce on dirait que les choses coulent de source, puis ça devient comme le livre se construit de lui-même. C'est beaucoup moins forçant. Ce qui est forçant, c'est le surplus de travail qui nécessite de faire des pages que finalement ne seront pas utilisées dans le livre. Mais c'est ça. Mais pour moi, en tout cas, de choisir la façon de faire, je trouve que c'est la meilleure pour moi, qui est la mieux adaptée.
Puis d'ajouter des pages de structure aussi. Je pense,
Ouais,
par
c'est
exemple,
ça, à la
aux
fin, le
réinterprétations de
boucher
peintures classiques dans lesquelles on met Audrey,
d'écrou.
des éléments comme ça qui viennent offrir, renforcer peut-être la cohésion à l'intérieur de l'ouvrage, en fait.
C'est ça. Exactement. Ouais.
Et le résultat de tout ça, je le rappelle, ça s'appelle Les inconvénients de la félicité. C'est disponible depuis déjà un certain temps chez Nouvelle Adresse. Donc, c'est disponible chez tous les bons libraires. François Donatien, merci beaucoup.
Hey, merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
Voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine où on va porter un regard sur le tout récent Gaston Lagaffe de Delaf. D'ici là, ben, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.